Vivre FM podcast.
Mathilde Daudet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui sur Vivre FM. Nous allons passer cette heure ensemble pour revenir un petit peu sur votre parcours de vie. Parcours de vie, histoire que vous racontez dans un ouvrage qui s'intitule « Choisir de vivre », publié aux éditions Carnet Nord. C'est une sorte de biographie, mais romancée.
C'est une biographie romancée, oui, parce que bon, je suis en fait deux personnes dans ce livre. Un mâle et une femelle, et je voulais que les deux personnages soient dissociés de telle manière à ce que l'histoire prenne du corps et qu'on ne comprenne pas tout de suite exactement la dualité de mon personnage.
C'est pour ça que vous avez choisi de le romancer.
Voilà, ça me permettait de raconter une histoire qui va un peu plus loin qu'une simple histoire de vie.
Alors, vous racontez donc votre histoire, c'est que vous êtes né homme, vous vous êtes senti femme pendant des années, puis vous avez décidé de changer de sexe, c'est ce que vous racontez.
Exactement.
C'est un sujet assez compliqué et à divulguer. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire justement et à raconter votre histoire ?
Ce qui m'a poussé, c'est que simplement, d'abord j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire que ma transformation a eu lieu finalement... de manière assez douce et une espèce de transition fondue enchaînée pour parler un langage imagé. Et c'est un succès pour moi et je pense que c'est un succès qui aussi peut servir d'exemple pour les autres. C'est pour ça que j'ai voulu en parler et en même temps je faisais pour moi une espèce de synthèse d'une année et demie d'analyse, un peu à marche forcée pour mieux comprendre exactement qui j'étais et pourquoi je l'étais.
Vous avez l'impression qu'on parle de plus en plus de ce sujet-là, parce que je fais référence il y a quelques semaines, je suis allé voir justement le film Danish Girl qui raconte l'histoire de la première femme transgenre, c'était au Danemark, hein, référence à l'histoire de l'artiste Lily Elb. Vous avez vu ce film ?
Non, je n'ai pas pu le voir parce que j'étais un peu occupé avec la sortie de mon livre, donc j'ai les.
Mais c'est ce que vous avez vécu en fait.
C'est un peu la même histoire. Maintenant, je pense que chaque histoire dans ce domaine est une histoire un peu particulière, d'abord parce que les techniques aussi ont changé et que l'on peut maintenant corriger les erreurs de la nature. Et je crois aussi que la psychanalyse peut maintenant apporter beaucoup aux candidats ou candidates au changement de genre.
Aujourd'hui, nous sommes 6 ans après votre opération, c'est ça ?
Oui.
Comment vous vous sentez ? Quelle est votre vie ? Vous êtes une belle brune devant moi déjà.
C'est une espèce de plénitude en fait. Je vis enfin comme je voulais vivre et je vis enfin comme je suis. Au plus profond de moi-même, c'est pas un problème de comportement, c'est un problème d'ontologie, d'existence existentielle. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre quand vous vivez dans un costume qui n'est pas le vôtre, et c'est une souffrance en permanence. Et donc, vous vous cachez la vérité parce que vous refusez d'admettre ce qui vous est arrivé. C'est une vraie difficulté.
On va revenir en détail sur votre parcours, mais toute votre vie, vous avez vécu homme, vous étiez photographe de guerre, grand reporter pour la télévision, vous avez fait de nombreuses choses masculines. Vous parlez de souffrance, est-ce que ça a été un réel handicap ? On peut parler d'handicap
tout au long de votre vie ? Si j'ai eu une virilité aussi exacerbée, c'est que je ne voulais pas admettre et surtout j'avais peur de la société et de sa réaction. Et par conséquent, je me cachais derrière cette virilité, cette espèce de super cop ou de robot cop, je ne sais pas. Et donc j'ai pris tous les risques possibles pour dire oui, je suis un homme, ne vous inquiétez pas. En fait, j'en ai trop fait, parce que pas un homme n'aurait fait ce que j'ai fait, j'ai cumulé au moins 3 vies d'homme.
Vous considérez votre vie d'avant comme un handicap ?
Non, pas du tout. Ma vie d'avant est ce qu'elle est, et je ne suis que la prolongation.
Mais vous
n'êtes
jamais senti... Est-ce que vous vous sentiez handicapé, le fait de ne pas pouvoir vivre ce que vous aviez envie de vivre
Je ne pense pas que je le sentais comme un handicap, je le sentais comme une gêne, parce que je ne pouvais pas m'épanouir dans ce que j'étais. Et j'étais forcé de jouer mon rôle d'homme. C'est surtout ça qui était le problème pour moi.
Alors ce parcours de vie, vous le racontez dans votre ouvrage « Choisir de vivre ». Il est publié aux éditions Carnet Nord. Vous racontez donc la cohabitation de Thierry avec Mathilde. Thierry, c'est votre ancien prénom, c'est celui que vous étiez avant. Aujourd'hui, vous êtes Mathilde. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui est cette Mathilde ? Quand est-elle apparue et le commencement ?
Alors, cette Mathilde, elle est apparue très tôt dans mon univers, puisqu'elle est apparue, j'avais à peu près 5 ans. Et elle ne m'a jamais quitté, en fait, si ce n'est que je l'avais mise de côté. Et j'avais coutume de dire qu'elle devait rester dans sa prison. Voilà, je lui donnais des heures de liberté que je m'accordais généralement après mes journées viriles, et c'est elle qui prenait la direction des opérations le soir. Mais c'était quelque chose qui était très irrégulier et surtout que je combattais de toutes mes forces parce que j'avais le sentiment de quelque chose qui n'était pas normal. Je n'osais pas en parler parce que j'étais en plus, j'avais été éduqué dans une éducation assez stricte avec une religion assez prenante. Et tout ça m'interdisait d'en parler et surtout de regarder qui j'étais véritablement.
On vous a élevé vraiment comme un garçon,
oui,
plus qu'un garçon, c'était...
Alors, je n'ai pas été élevé comme un guerrier, mais j'ai été élevé comme un garçon, c'est-à-dire que le sexe détermine votre genre, et le genre, c'est surtout l'éducation qu'il donne. Je veux dire, on parle toujours de garçons manqués, on ne parle jamais de filles manquées. Je veux dire, c'est quelque chose qui est important parce qu'on doit emmener les gens vers le genre tel qu'il correspond à la société.
Alors, comment à 5 ans, vous aviez conscience que vous sentiez...
Je suis attiré par la panoplie de la féminité telle qu'elle est conçue par la société.
Alors, expliquez-nous, à 5 ans, vous vous habillez en femme déjà ?
À 5 ans, c'est mon premier souvenir de féminité, c'est-à-dire que j'ai été volé des vêtements féminins qui étaient accrochés... à l'extérieur, ce qu'on appelait le fil à linge, et j'ai été chercher ces vêtements et je les ai portés.
D'accord.
Et puis voilà, ça a été ma première manifestation de féminité.
C'est un épisode que vous racontez dans votre livre, hein, pendant des vacances en Bourgogne, votre oncle vous surprend.
Voilà, et cet oncle m'apprend que ça ne se fait pas, et surtout il me dit qu'il ne faut pas en parler. Donc ça conforte l'idée du secret que je dois garder sur cette féminité qui existe chez un petit garçon et elle ne devrait pas exister.
Et alors, qu'est-ce que vous dites à 5 ans, à ce moment-là, justement ?
Et ben, à 5 ans, je dis à Mathilde, maintenant, tu la fermes, tu la boucles et surtout, tu ne parles pas de ton existence.
D'accord. Vous avez essayé de refouler ce besoin ?
Je l'ai refoulé, je crois, assez bien, avec de temps en temps... Le sentiment de culpabilité qui devient de plus en plus fort puisque voilà, il y a des choses qui ne se font pas et que ces choses qui ne se font pas, c'est la règle sociale et cette règle sociale est généralement sacralisée par les règles religieuses.
Vous avez vécu dans un milieu social assez catholique. Vous êtes l'une des ancêtres d'Alphonse Daudet,
c'est
votre arrière-grand-père. Est-ce que le milieu aussi social où vous êtes né n'a pas facilité les choses ou ça aurait été pareil dans...
Écoutez, je ne sais pas, parce que je ne connais que le milieu dans lequel j'ai vécu. Ce que je sais, c'est que c'était des choses, on disait, ça ne se fait pas. Donc voilà, et puis la religion vous explique que vous êtes une créature de Dieu et que le créature de Dieu, vous n'avez pas, vous, humain, à corriger les créatures de Dieu. Ça paraît évident.
Alors vous nous avez raconté votre épisode à 5 ans. Plus tard, comment vous grandissez à l'adolescence, justement, quand vous découvrez, c'est le moment où on découvre les premiers émois sentimentaux, etc. Comment vous vivez cette adolescence ? Mathilde ressurgit ?
Mathilde ressurgit à temps partiel. Mathilde est un peu... enfin, je oscille entre le masculin et le féminin tout le temps, et avec une tendance au masculin, puisque je refoule tout le temps l'idée que Mathilde pourrait prendre la place de Jean-Pierre. Donc ça, c'est quelque chose qui existe en permanence, et le battement est de plus en plus irrégulier. C'est-à-dire qu'au début, c'est la virilité qui domine, et plus je vieillis et plus avance en âge, plus c'est la féminité qui domine jusqu'au moment où je prends la décision.
Est-ce que vous avez la possibilité d'en parler pendant votre adolescence à quelqu'un ?
À qui pouvez-vous parler de ça quand vous avez été élevé tel que j'ai été ? Vous ne pouvez en parler à personne. Vous pouvez en parler... J'avais ce qu'on appelait à l'époque des directeurs de conscience, qui étaient en fait des prêtres qui s'occupaient de la bonne éducation religieuse des enfants. Et c'est quelqu'un à qui, bien sûr, je ne pouvais pas parler. La seule chose que je disais à cette personne, c'était les choses mal que j'avais faites, c'est tout. Et par conséquent, celle-là était tellement mal que je n'osais même pas en parler.
D'accord. Mais du coup, personne dans votre famille n'était au courant ?
Personne.
À part votre oncle, qui vous avait surpris une fois, mais vous en aviez pu reparler.
Oui. Et cet oncle, je ne sais pas s'il avait réalisé exactement ce que c'était.
Donc il n'a certainement jamais su.
Donc il n'a jamais su.
À l'adolescence, comment vous vivez cette... Justement, quand on est homme, on se transforme, on a la virilité qui apparaît, les poils qui apparaissent.
C'est pas une grande satisfaction pour moi. C'est même plutôt... Mais voilà, je subis cette transformation, mais je n'ai pas grand-chose à opposer à ça. Et puis, mon attirance sexuelle pour les femmes existe. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'à la fois je me sens femme et à la fois, en tant qu'homme, les femmes me fascinent. Et j'ai envie, alors c'est probablement la meilleure manière que j'ai d'expliquer les choses, c'est que j'ai envie d'habiter les femmes. J'ai envie d'être une femme, et pour le mieux les connaître, je suis au plus près d'elles.
Ça veut dire que vous aimez tellement les femmes que vous avez envie d'être femme, c'est ça en gros? Et c'est peut-être ça qui est compliqué à faire comprendre dans la conscience collective aujourd'hui, c'est que cette envie d'être femme, ça, c'est complètement différent de l'attirance sexuelle.
Si vous voulez, c'est quelque chose qui est tellement différent de la norme à laquelle on est habitué. Je crois qu'il y a plusieurs manières de faire passer les choses, exactement comme on a fait rentrer plus ou moins bien l'homosexualité dans les mœurs. On peut aller dans la rue et crier « on a le droit de vivre tous, autant que nous sommes » et qui que ce soit que nous soyons. Et puis, donc ça, c'est tout ce qui s'est passé dans le mouvement homosexuel, dans le mouvement ce qu'on appelle LGBT, c'est-à-dire qui regroupe tous les homosexuels et les transgenres. Moi, j'ai fait ma transformation, et je suis une femme dont personne ne doute. Et j'ai pris le parti, à partir du moment où personne ne doutait de moi, de dire d'un seul coup aux gens qui étaient autour de moi et qui me prenaient pour une femme génétique. Voilà, avant, je n'étais pas une femme. Et par conséquent, vous voyez bien que c'est possible, puisque quand vous n'êtes pas au courant, vous êtes forcé de l'admettre et vous l'avez admis. Alors pourquoi maintenant vous m'appelez différemment? Pourquoi les gens me disent maintenant « Ah oui, j'ai appris que vous étiez une femme transsexuelle. » Mais avant, vous ne me disiez pas ça. Donc le fait que vous le savez... Change votre attitude, change votre regard. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a même des hommes qui m'ont aimé en tant que femme. Et à partir du moment où je leur dis, ils me disent « Ouh, loin de moi, créature diabolique ».
C'est ça l'objet de votre ouvrage qui s'intitule « Choisir de vivre ». C'est vraiment faire bouger la
conscience des gens et faire bouger aussi la normalité en ce qui concerne les genres. Parce que les genres, ce n'est pas seulement le sexe que nous avons ou n'avons pas entre les jambes.
Justement, il y a une phrase que j'apprécie tout particulièrement dans votre ouvrage. La seule normalité des hommes, c'est qu'ils sont tous différents. C'est ça qu'on peut résumer comme ça.
Et c'est ce qui fait la beauté du genre humain.
Mathilde Daudet, restez avec nous dans un instant. La suite de cette émission, on continue de dérouler votre parcours de vie et de parler de ce livre qui s'intitule « Choisir de vivre ». C'est publié aux éditions Carnet Nord. À tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
C'est la seconde partie de cette émission Vivre FM, c'est vous, consacrée au parcours de vie de Mathilde Daudet. Mathilde Daudet qui vient nous présenter son livre intitulé « Choisir de vivre ». C'est publié aux éditions Carnet Nord, un roman autobiographique, hein, c'est comme ça qu'on peut l'intituler, Mathilde.
Un récit de vie romancé.
Voilà, un récit de vie romancé, votre vie est assez romanesque, on peut dire ça comme ça,
non? Oui, c'est surtout une vie extrêmement riche parce que c'est une vie que j'ai vécue dans les deux genres. Et par conséquent, c'est une vie qui est extrêmement enrichissante pour la personne qui la vit. Et puis j'ai vu les choses de deux points de vue très différents.
Oui, c'est presque une chance, j'ai envie de dire. Je rappelle que vous avez vécu 60 ans, pendant 60 ans, vous étiez un homme.
Et donc j'ai encore 60 ans à vivre en femme.
Et vous avez encore 60 ans à vivre en femme, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Voilà, vous racontez, vous êtes né homme et vous êtes toujours senti femme à partir de l'âge de 5 ans. Vous imaginez que vous vous appeliez Mathilde. Pour quelle raison d'ailleurs, Mathilde, ça vient d'où ça?
Parce que Mathilde, c'était le prénom que j'aurais dû porter si j'avais été une fille. À l'époque, on ne connaissait pas le sexe des enfants avant la naissance comme maintenant. Et donc, ma maman avait deux solutions. Si j'étais une fille, ça aurait été Mathilde. Ma mère m'a raconté cette histoire, je devais avoir 7-8 ans. Je l'ai oublié comme ce genre d'histoire d'enfant. Et puis quand je me parlais, je me disais, tiens, si j'étais une fille, je m'appellerais Mathilde. En fait, c'est le prénom suggéré par ma mère que j'ai repris inconsciemment au démarrage. Et maintenant, je suis très fier de le porter puisque c'était le prénom que j'aurais dû porter si j'avais été une fille.
Est-ce qu'on peut décrire aux auditeurs qu'est-ce qui se passait lorsque Mathilde ressurgissait? Je fais encore référence là au film de Danish Girl qui est actuellement au cinéma, qui raconte justement un peu votre histoire. C'était l'histoire de Lily Elbe, c'était dans les années 30, alors c'était encore moins bien vu à l'époque. On voit que c'était un grand plaisir pour elle de s'habiller en femme. Vous, qu'est-ce que vous ressentiez?
C'est un immense plaisir parce que le vêtement n'est pas que... c'est une traduction, je veux dire, on porte le costume du genre en fait. Le vêtement en soi est un... C'est vrai que le vêtement féminin est beaucoup plus dans la douceur, dans la couleur, etc. etc. Mais c'est surtout la traduction d'un phénomène social, c'est-à-dire que les hommes se couvrent et les femmes s'habillent. Donc je n'avais pas le plaisir de m'habiller, au contraire, je m'habillais le plus simplement possible. Moi, mon costume professionnel en tant qu'homme, c'était un t-shirt, un perfecto, un jean et des Santiago. Et je n'en ai pas varié pendant 50 ans.
Alors, vous nous l'avez dit, vous étiez, malgré cette envie d'être femme, vous aimiez les femmes. Vous racontez votre vie affective dans votre ouvrage. Comment on construit une vie affective? Comment vous avez construit une vie affective?
On met de côté le personnage féminin et puis on se dit que ça va marcher et que cette nouvelle relation avec une femme va vous permettre d'oublier que vous êtes vous-même double. Et puis, c'est pas vrai.
Donc vous êtes marié, vous avez eu des enfants, deux
enfants.
Je me suis marié,
j'ai eu des enfants. J'ai eu un enfant. Quand j'ai eu un enfant, je me suis dit, bien évidemment, maintenant tu es un homme puisque tu as fait un enfant. Enfin, tu as fait un enfant. Tu as participé à la création d'un enfant avec une femme. Et par conséquent, ça prouve bien que tu es un homme. Et puis en fait, c'est pas vrai parce que le tout ça ne correspond pas au genre. C'est-à-dire le genre, c'est ce que vous êtes. C'est l'origine du mot. C'est la vraie nature de l'homme au sens humain du terme.
D'accord, donc souvent vous vous êtes dit ça va passer, mais ça ne passait pas en fait.
Parce que c'est encore une fois, c'est quelque chose d'existentiel, ce n'est pas un comportement. Si vous, vous prenez l'habitude de marcher à cloche-pied, on peut vous dire on va vous corriger le tir et puis on va vous faire marcher sur vos deux pieds. Mais quand vous dites non, moi je suis une femme, on a beau vous habiller en homme, on a beau vous habiller en clown, vous êtes une femme.
Alors, vous vivez cette vie d'homme, votre métier, vous dites que vous avez vécu, vous avez fait des choses plus masculines que la plupart des hommes, vous avez été reporter de guerre, vous avez pris de nombreuses photos en hélicoptère sans harnais, etc. À côté de ça, vous transportiez des robes dans votre valise, c'est ça?
J'avais souvent, oui, un vêtement féminin, alors ça pouvait être une robe, quelquefois je la stais sur place aussi, j'ai acheté une très jolie robe en Turquie.
D'accord.
et ça me permettait le soir de prendre une récréation et de trouver surtout la paix intérieure en étant en paix avec moi-même, c'est-à-dire que je laissais ma Mathilde à moi respirer à l'intérieur de mon corps et de vivre enfin. C'était important pour moi de pouvoir lui donner de temps en temps des espaces de liberté. Et puis plus ça va, plus elle a pris comme toutes les femmes, de manière perverse, elle a pris la place de l'homme et finalement je lui ai laissé la place et j'ai préféré faire disparaître l'homme et laisser vivre moi Mathilde, c'est ce que je suis actuellement.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi justement à...
C'est une femme qui a fait que j'ai pu franchir le pas. Parce que cette femme qui a témoigné d'un immense amour pour moi, voyant ma détresse, voyant ma mélancolie, m'a dit « mais il faut y aller ».
Donc c'était votre compagne de l'époque.
C'était ma compagne de l'époque.
Dans le livre, elle s'appelle Anne. C'est vous qui lui avez dit, qui avez parlé de
Je lui ai parlé un jour parce qu'elle m'a dit « si tu ne me parles pas, on va devoir se séparer ». Parce que moi, je ne supporte pas ces périodes où tu es absent et où tu as l'air d'une tristesse profonde. Donc,
ça veut dire qu'elle ressentait quelque chose sans que...
Elle le ressentait, oui. Elle le ressentait parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais pas là. Et j'étais en train de... C'est Mathilde qui vivait au travers de moi, mais je n'avais plus de communication avec l'extérieur.
Alors comment ça se passe? Comment vous lui dites? Expliquez-nous un petit peu. Comment ça
Je lui dis en fait de manière assez lâche. Je lui dis par mail pour pas affronter le regard à ce moment-là. Et elle me répond au démarrage, elle prend ça pour du travestissement, c'est-à-dire pour du comportement. Et je lui dis non, c'est plus profond. Jeter mes vêtements, ça servira à rien. En fait, je suis une femme, voilà. Et j'ai besoin de vivre en femme. Et là, elle me dit, ce qu'il faut, c'est mettre ton corps en accord avec ton esprit. Et donc, allons à l'opération.
Elle vous dit, sois heureux, fais-toi opérer, faisons ça ensemble.
Oui.
Comment vous réagissez face à ces mots?
C'est un bouleversement comme j'en ai jamais connu d'autres. D'abord parce que je pense que c'est une preuve d'amour énorme de sa part. Et puis, moi, c'est un soulagement aussi profond. Je me dis, je vais enfin... prendre le train qui va vers le bonheur, ce que je n'avais jamais osé faire, et Dieu sait que le train était passé souvent devant moi, et à chaque fois, je laissais les portes se refermer comme des portes automatiques de métro.
Vous aviez eu des occasions de le faire Ouais.
Bien sûr, j'aurais pu prendre l'occasion, mais je n'ai jamais osé.
Toujours par rapport à la norme
Par rapport à la norme, par rapport, ne serait-ce que par rapport aussi à ma compagne, c'est difficile de dire à la femme avec qui vous vivez, qui a de l'amour pour vous, voilà, nous n'allons plus avoir de rapport sexuel parce que ça ne sera plus possible. C'est quand même quelque chose qui est compliqué.
Alors ce jour-là, lorsque Anne vous dit « fais-toi opérer, faisons ça ensemble », pour vous c'est une délivrance, on le sent.
Bien sûr, c'est une délivrance. Et en plus, le faire avec la personne que vous aimez le plus au monde, la preuve, c'est la seule personne à qui vous avez osé le dire.
Alors comment ça se passe du coup? Parce que ce n'est pas une opération anodine. En France, est-ce que c'est toléré d'ailleurs? Est-ce que ça
se... Alors en France, maintenant c'est toléré. À l'époque, c'était aussi toléré. Il n'y avait pas la dextérité nécessaire, si vous voulez, dans le panel de chirurgiens français. Donc, les gens allaient plutôt soit aux États-Unis, soit en Thaïlande. Et moi, grâce aux adresses données par les associations qui œuvrent pour les gens comme moi, j'ai trouvé un médecin, enfin un chirurgien extraordinaire en Thaïlande.
Donc, vous êtes parti à Bangkok vous faire opérer. C'est pas une... Comment on prépare une telle opération? C'est pas une opération anodine, forcément? Est-ce qu'il y a des suites psychologiques au départ ou...
Moi, je suis tombé sur des gens assez exceptionnels, et notamment une gynéco-endocrino qui m'a dit « on ne sait jamais ce qui peut arriver après une telle opération, parce que c'est quelque chose qui est quand même lourd, dans les conséquences notamment, et j'aimerais que quelqu'un te connaisse bien. Et cette personne qui me connaîtra bien, ça sera une psychanalyste qu'elle me recommande et que je vais voir, avec qui je travaille pendant un an et demi, mais à raison quelquefois de 2 à 3 séances par semaine. » Ce qui est très important pour en analyse. J'en ressors à chaque fois vidé, mais j'ai l'impression d'avancer. Et je développe une relation amicale en plus, parce que c'est une psychanalyste à qui j'ai demandé d'avoir du répondant vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la caricature de l'analyste qui vous regarde assis dans son fauteuil et puis qui vous dit « bon, on se reverra à la séance suivante ». Là, je lui demande de réfuter mes arguments, je lui demande de me contredire. J'ai un vrai dialogue avec cette personne. Et elle me fait réfléchir, elle me montre mes failles, elle me montre mes portes, elle me montre mes serrures bloquées. Et puis au bout d'un moment, je me dis « ça va, je suis prête ».
Voilà, vous aviez besoin qu'elle vous fasse réfléchir aussi pour que vous soyez bien sûr d'être prête pour ce genre de choses.
J'étais en souffrance et elle l'a tout de suite senti. Et elle m'a libéré de ses souffrances parce que les blocages n'étaient pas dans l'incertitude de ce que je devais faire, mais dans l'incertitude des conséquences qu'elles allaient avoir sur ma structure mentale, telle qu'elle s'était construite au cours de ma vie. Je ne sais pas si c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça.
Vous aviez peur?
Vous avez peur comme vous avez peur de l'inconnu. Je veux dire, c'est... Oui, ça fait peur. Ça fait peur d'abord parce que c'est une opération qui est lourde. C'est une opération qui dure quand même presque 7 heures. Donc oui, quelque part, ça fait peur.
Vous dites, je n'avais pas peur. Au pire, je meurs pendant l'anesthésie. Ça veut dire qu'en fait, la mort était presque moins pire que de continuer à être homme?
Ça, c'est une déduction que vous faites. Je ne sais pas si ça aurait été pire ou pas. Mais c'est quelque chose... La mort, je la côtoyais beaucoup dans l'exercice de mon métier, puisque je faisais toutes les bêtises possibles, inimaginables, dans la mesure où j'étais aussi, d'une certaine manière, suicidaire, sans oser aller jusqu'au bout. Et je me disais, au pire, je vais mourir, ça sera pas moi.
Vous parlez des prises de risque lors de vos fonctions de journaliste et photographe,
ouais,
c'est ça?
Oui, voilà, j'avais un ami que j'ai revu l'autre jour qui me disait... Est-ce que tu avais besoin de traverser les champs de mines à pied en Angola? Non, j'en avais pas besoin, c'est sûr. Mais ça m'excitait aussi d'avoir franchi ce genre d'obstacle.
Cette opération s'est bien passée. Qu'est-ce que vous dites à votre réveil? À votre réveil, qu'est-ce que vous dites?
À mon chirurgien, je lui dis merci, c'est une belle naissance. Il m'a corrigé, il m'a dit non, c'est une renaissance.
C'est une réelle renaissance. On va parler en troisième partie de cette émission... De votre nouvelle vie de Mathilde, femme. Il y aura aussi les questions des auditeurs. Restez avec nous, Mathilde Daudet, la suite de cette émission dans un instant. Et on continue de parler de votre ouvrage qui s'intitule « Choisir de vivre ». C'est publié aux éditions Carnet Nord. A tout de suite sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
On continue cette émission Vivre FM, c'est vous, avec notre invitée Mathilde Daudet. Mathilde qui va nous raconter son histoire, son parcours de vie et ce magnifique ouvrage qui s'intitule « Choisir de vivre ». C'est publié aux éditions Carnet Nord. Votre vie romancée, voilà. Vous aviez déjà écrit des romans
Non, c'était la première fois que je me suis toujours exprimé avec un appareil photo et avec une caméra. Et là, c'est la première fois que je me mettais devant un clavier. Mais ça m'a donné le goût parce que je suis en train d'écrire le suivant.
C'est vrai? Sur votre vie aussi?
Non. Ça, c'est voilà, c'était une histoire qui est résolue. Puis, vous savez, tout le monde m'a dit, faut pas rester sur une biographie. C'est sinon on ressasse et c'est pas bien.
Votre nouvelle vie maintenant, c'est romancière.
Mathilde, voilà, ça sera romancière. Pour l'instant, j'ose pas encore le dire, mais ça, c'est en cours.
Dans ce livre, vous racontez de votre histoire, comment vous êtes devenue une femme après avoir passé 60 ans dans le corps d'un homme. Quel est le retour du public, justement, de vos voisins, de vos amis, depuis la publication de ce livre ?
C'est, on peut dire, pratiquement toujours très favorable. C'est-à-dire que les gens sont conscients qu'il y a un problème. En me voyant, ils sont conscients aussi qu'on peut vivre à côté de moi sans que vivre à côté d'un phénomène de foire. Voilà, je ne suis pas la femme à barbe, je ne suis pas... Et donc, voilà, ça rassure. Et généralement, les gens sont encouragés par mon attitude et par le constat de voir que c'est possible. Voilà. Et j'espère que au moins ça sera un exemple et que les gens, quand ils verront d'autres gens comme moi qui ont fait le même parcours, ils se diront « oui, on sait que c'est possible puisque Mathilde Daudet avait déjà fait ce parcours ».
Montrer que c'est possible et inciter à la tolérance, c'est ça qu'on peut retenir de votre livre, la tolérance. En 2016, il faut encore le rappeler que...
Mais il faut le rappeler parce que je pense que la tolérance, elle n'est jamais acquise. Et je pense que si on regarde l'histoire... certains domaines, la tolérance était admise et puis elle a été remise au placard. La tolérance, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre tous les jours si on veut que ça dure.
Donc vous êtes devenue femme il y a 6 ans. Quelles sont les conséquences après dans l'état civil, déjà vous devenez femme, vous devenez Mathilde.
Oui.
Mais après, est-ce que ça a eu des conséquences dans votre vie, dans votre relation avec Anne, justement, qui est la personne qui vous a encouragé à faire cette opération ?
La relation avec Anne, elle a été bien évidemment perturbée. Assez fortement, puisqu'il n'y avait plus de relations sexuelles déjà, et puis que l'attitude d'une femme avec une autre femme est différente d'une femme avec un homme, hors relation sexuelle. Et puis il n'y avait plus la protection que je devais offrir à Anne aussi, ou tout du moins dans sa tête, elle n'était plus possible. Je veux dire qu'à l'usage, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. J'avais grand espoir que ça puisse durer et j'en ai été très malheureuse quand nous nous sommes séparés. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, mais j'espérais que nous étions des gens exceptionnels et que nous allions surmonter les problèmes. Et puis en fait, je crois que les circonstances étaient exceptionnelles, mais que nous étions des gens ordinaires et nous n'avons pas su trouver le biais pour vivre ensemble. En plus, on vivait au Maroc. Quand deux femmes vivent ensemble, c'est très suspect au Maroc. Ça fait partie des choses qui ne sont pas admises encore par la société marocaine.
En ce qui concerne les démarches administratives, comment ça se passe ?
C'est à la fois très simple et très compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été débouté 3 fois par le tribunal pour le tribunal des affaires familiales. C'est lui qui décide d'un changement d'identité. Et donc le juge s'est dit incompétent. Après, c'est le tribunal qui s'est dit incompétent. Et puis, j'étais à Nanterre, j'avais une sciatique assez violente, et j'avais un peu étendu mes jambes devant la porte de l'entrée du tribunal. Et puis, une dame arrive, je suis avec une robe violette, et elle me dit « Excusez-moi madame, mais je voudrais rentrer, c'est là que je siège. » Et je lui dis « Excusez-moi, je m'excuse. » Et je rentre au tribunal et je m'aperçois que cette dame avec cette robe violette, c'était juste le procureur. Et quand on m'a demandé la raison de ma comparution devant le tribunal, j'ai dit « Écoutez, c'est simple, vous m'avez dit « Excusez-moi madame » tout à l'heure, et je suis monsieur, donc je viens juste pour que vous changiez cette erreur sur mon registre d'état civil. » J'ai eu gain de cause en à peine 10 minutes, et la procureure a même proposé de réduire la période d'appel possible pour le tribunal, histoire que les choses aillent plus vite pour moi. Après, il ne reste plus que le numéro de sécurité sociale, puisque nous avons un quand nous sommes mâles à la naissance, et un 2 quand nous sommes femelles. Et donc, je suis passé par le biais de la sécurité sociale, la CPAM maintenant, et aucun succès. Et bien, j'ai été finalement voir à l'INSEE, aucun succès. Donc j'ai envoyé un mail à l'INSEE, on contacte l'INSEE. Je leur ai dit « aidez-moi, parce que moi je n'arrive pas à vivre avec un numéro 1, alors que sur mon passeport j'ai madame ». Et donc j'ai reçu un mail très rapidement d'un monsieur adorable qui m'a dit « si vous me donnez les preuves que vous êtes maintenant vis-à-vis de la société, c'est-à-dire le jugement du tribunal, vous êtes maintenant une femme, il n'y a aucun problème ». Donc j'ai envoyé la photocopie du papier, il m'a par retour de mail, il m'a dit « voilà, vous avez un 2 ». Donc je suis retourné à la sécurité sociale. Et là, il n'en revenait pas même de ce bouleversement aussi rapide.
Qu'est-ce que ça, vous avez ressenti lorsque vous avez vu votre numéro
C'est une joie immense. C'est une joie immense. C'est l'aboutissement de... C'est l'aboutissement de presque 4 ans de lutte où vous êtes considéré, quand vous allez vous présenter pour un job, par exemple, et qu'on vous demande votre identité, vous ne pouvez pas décliner votre identité parce qu'elle n'est pas en accord avec ce que vous êtes. Je me souviens de présentant mon passeport pour postuler pour un emploi. Et la personne qui me recevait me disait « Ah, vous vous êtes trompé, vous me présentez le passeport de votre mari. » Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Justement, ce changement de vie, est-ce que ça a eu des répercussions dans votre vie professionnelle ?
Oui, ça a eu une répercussion assez radicale parce que mes plus gros clients, ou mon plus gros client en tout cas, je ne l'ai plus jamais retravaillé pour lui.
Je rappelle que vous étiez journaliste à la télévision, dans la presse,
c'est ça ? Je vivais aussi beaucoup. Enfin, à ce moment-là, j'avais ralenti sur le côté journaliste parce que j'avais pris un peu d'âge. Et je travaillais beaucoup en institutionnel, ce qu'on appelle les films institutionnels, les films de formation, etc. etc.
D'accord.
Et ça s'est arrêté pratiquement du jour au lendemain.
Donc du coup, il a fallu retrouver une activité
Il a fallu retrouver une activité, mais j'avais déjà pris ma retraite puisque... Avec ma compagne, nous avions décidé d'aller vivre au Maroc pour justement faire de l'audiovisuel au Maroc qui n'est pas très bien équipé à ce niveau-là. Donc on pensait qu'il y avait un véritable marché à développer.
Mathilde Daudet, reste avec nous. On va donner maintenant la parole à nos auditeurs. Ils ont été quelques-uns à nous envoyer des questions pour vous. C'est l'heure des questions des internautes. Et on a une première question de Lionel de Paris 15e. Depuis votre opération, avez-vous rencontré des réactions de transphobie ?
J'ai assez peu rencontré de réactions de transphobie dans la mesure où je n'étais pas, jusqu'à la publication de mon livre, détectable. Donc je n'ai pas souffert de transphobie. Les gens qui me rencontraient ne se sont jamais doutés de quoi que ce soit. Et par conséquent, c'est à partir du moment où j'ai sorti ce livre je me suis moi-même dévoilé, enfin, parce que j'avais envie de dire, vous voyez que c'est possible.
C'était compliqué ça, de le vécu après ou pas ? Pas forcément, puisque les commentaires ont été plutôt positifs, c'est ce que vous me disiez.
Les commentaires sont positifs, mais vous perdez un anonymat qui est assez délicieux quand même.
Autre question de Patrice de Paris 13e. Il vous demande s'il y a des pays où ce genre de situation, et notamment les opérations de changement de sexe, sont mieux vues qu'en France. Forcément, est-ce qu'il y a des pays, les États-Unis par exemple
Alors aux États-Unis, il y a de très bons chirurgiens. En Thaïlande, il y a de très bons chirurgiens. En France, il y a vraiment des équipes qui se sont développées et qui sont maintenant très performantes, notamment des gens qui sont à Lyon, où il y a un véritable centre qui s'est auto-créé. Toutes ces adresses sont dans l'association pour laquelle je milite, qui s'appelle Respect Trans, et on trouve ça sur Internet. Il y a plein d'adresses, aussi bien de psychologues, de psychiatres, de chirurgiens esthétiques ou des chirurgiens qui pratiquent l'opération.
On a une autre question de Laure de Paris 19e. Avez-vous besoin de consulter un psychanalyste toujours ?
Est-ce que j'en consulte un toujours ? Ouais. Non. Je consulte toujours ma psychanalyste parce que c'est devenu une amie et que nous avons des activités artistiques ensemble, mais nous ne parlons plus d'analyse.
Patrice de Paris 5e, comment ont réagi vos proches à votre changement d'identité ?
Mes proches ont plutôt très très bien réagi parce que je pense que l'amour a pris le dessus par rapport au changement de genre et au changement de nature. Voilà, la plupart du temps, les choses se passent bien. Maintenant, il est toujours possible que des gens prennent des distances par rapport à vous, ce qui est le cas avec certains membres de ma famille. Mais bon, vous savez, ce qui est important, c'est de pouvoir s'appuyer sur les autres. Et si l'amour est là pour 75% des gens qui vous entourent, c'est déjà suffisant pour survivre très bien.
Quelle est aujourd'hui votre vie de femme, Mathilde Daudet ? Vous avez rencontré l'amour, vous ?
J'ai rencontré l'amour plusieurs fois, et puis l'amour est parti quand mes partenaires ont compris qui j'étais, parce que je leur disais. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut parler avant? Est-ce qu'il faut parler après? Est-ce qu'il faut parler juste après? Est-ce qu'il faut parler longtemps après? Je n'ai pas la solution. Ce que je sais, c'est que ça perturbe énormément les hommes, parce que je pense que j'ai fait quelque chose qui, pour eux, est le sommet de la torture. La mutilation, qui consiste à couper les organes génitaux d'un homme. C'est même James Bond n'y résiste pas dans les films. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose qui est repoussé par les hommes. Maintenant, j'ai rencontré aussi un monsieur avec qui j'ai toujours des relations. Nous n'avons plus de relations sexuelles, mais nous avons des relations amicales et presque affectives. Donc, il y a un petit pas qui est fait.
Et vous cherchez donc, là j'ai l'impression, plus l'amour avec un homme, pas avec une femme? Ça serait compliqué?
Non,
avec...
je suis définitivement hétérosexuel. J'étais hétérosexuel en tant qu'homme et je suis hétérosexuel en tant que femme.
D'accord.
C'est comme ça.
Mathilde Daudet, comment vous voyez l'avenir maintenant, là, les 10 prochaines années? Écrire des romans, hein, parce que vous m'avez dit voilà. Que vous avez un deuxième roman en préparation.
Donc j'écris, ça me prend beaucoup de temps parce que j'aime bien écrire. Et je suis un peu comme, sans me prendre pour lui, mais j'aime bien que ça sonne bien, comme Flaubert aimait que ça sonne bien. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. Et puis c'est un grand plaisir d'écrire, je continue des activités photographiques. Et de temps en temps, je reprends une caméra pour tourner un sujet qui m'intéresse.
Oui, vous avez toujours cette âme journalistique.
Oui, parce que la rencontre des autres a toujours été essentielle dans ma vie. Et par conséquent, voilà, la caméra, l'appareil photo, et même la plume, ça vous permet d'avoir un contact avec les gens.
Mathilde Daudet, merci beaucoup d'être venue sur l'antenne de Vivre FM
merci
pour cette émission et ce témoignage passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, Choisir de vivre, c'est publié aux éditions Carnet Nord. Et puis vous revenez nous voir quand vous voulez pour le prochain roman.
Hein? Avec grand plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vivre FM, podcast.